Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Vous connaissez le livre de l'Ecclésiaste ? C'est dans la Bible, hein ? Alors ouvrez le don si vous voulez. Livre de l'Ecclésiaste, et nous allons faire donc, nous allons prendre un premier récit. Dans le chapitre 3, on a évoqué il y a quelques instants, eh bien le temps. Le temps, c'est un facteur de notre vie. Hein. Voilà, nous sommes renfermés entre tout simplement eh bien notre arrivée, notre naissance et puis notre départ, c'est le temps. Et puis on peut parler d'éternité aussi. Hein. Alors là, ça se compte plus. Naturellement, c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension, les limites de notre intelligence. Alors on va parler du temps, si vous voulez bien. Et puis, on abordera également la question qui, eh bien, est une réalité invisible, hein, difficilement explicable, de ce qu'est l'éternité, le temps et l'éternité. Et il est question, justement, dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est une réflexion impertinente qui vaut pour toujours, pour nous aussi, pour nous également, comme tout cela, eh bien, était des réalités du temps de l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, qui était le roi Salomon. Alors, ça nous ramène quand même pas mal de une autre époque, et il écrivait ceci. Donc, Ecclésiaste, chapitre 3, et il disait, nous lisons, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose, sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui était planté. » Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit, jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Voilà pour notre première lecture, nous y reviendrons sans tarder, et je vous propose que nous lisions dans le livre des Hébreux maintenant. Alors c'est dans le Nouveau Testament, c'est à la fin de notre Bible. J'aimerais justement eh bien mettre en liaison, en relation eh bien ces deux textes qui nous délivrent ce soir un message, une réflexion pour chacun d'entre nous sur la valeur du temps, sur ce que nous faisons de notre temps, donc de notre vie, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et dans Hébreux chapitre 3, et au verset 7, nous lirons donc une petite phrase et puis on reprendra dans le chapitre suivant. Livre des Hébreux, chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Chapitre 4 et verset 1er. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors je vais vous expliquer tout ça. On va reprendre notre première lecture. Vous avez remarqué avec moi, il y a ce refrain variable, un temps pour ceci, un temps pour cela. C'est vrai que notre vie n'est pas faite que d'une chose, hein, ce serait monotone. Même lorsqu'elle est bien remplie, quelquefois on peut arriver à s'ennuyer. C'est pas vrai? Ça peut arriver. Hein. Alors, il nous est donné justement ces paroles pour nous montrer que dans ce que Dieu a donné à l'homme, c'est-à-dire toute cette sphère des activités nécessaires, des activités utiles, des activités qui quelquefois touchent notre loisir ou nos loisirs, hein, nos distractions par exemple, et puis tout ce qu'il peut y avoir à faire, hein, mais de ne pas rester comme cela. D'ailleurs, on s'aperçoit que les gens qui sont malades de l'intérieur, on peut dire qu'ils sont prostrés, on peut dire qu'ils ne trouvent plus de goût à rien. Alors la vie, c'est pas ça. Hein, il y a dans notre société, notre monde, tant de gens qui sont malades à l'intérieur d'eux-mêmes et qui, quelque part, donnent l'apparence aux autres et peut-être une réalité qu'ils sont éteints. Hein, les dépressifs, les gens qui sont dans l'angoisse. Alors il y a derrière une agitation, mais il y a quelque chose qui est cassé à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous leur donnez, vous leur présentez les plus bonnes choses, les plus belles choses, et puis ça leur dit rien. Voilà. Hein. Et pourtant, la Bible nous le rappelle, il y a un temps pour toutes choses. Et on est aussi dans une société qui est paradoxale, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus avancer parce qu'ils sont dans un état intérieur, leur âme est malade, hein, comme on l'a dit l'autre dernièrement, leur âme est encombrée de toutes sortes de choses, alors ils ne savent plus faire de choix, ils ne savent plus. Voilà. Hein, ils sont là dans l'embarras permanent, c'est une forme de neurasthénie, hein, certainement. Et puis il y en a d'autres qui sont tellement dans les activités qu'ils n'ont même pas le temps de s'arrêter. Et ils enchaînent jusqu'au moment peut-être dans ce que l'on peut appeler le surmenage, le stress. Alors à un moment donné, ils comprennent plus rien du tout parce que ça va trop loin. Il y a ceux qui sont là arrêtés, puis il y en a ceux qui foncent à une vitesse incroyable et qui à un moment donné vont casser. Et c'est bien le reflet de notre société, de notre monde d'aujourd'hui, hein. Un monde qui est endiablé, on peut le dire, un monde de folie, parce que c'est comme ça. Et puis alors il y a des choses qui sont obligatoires. Hein, parce qu'on n'a pas le choix. Hein, lorsqu'il est question du travail, il y a des choses qui sont impératives, à moins que vous soyez votre propre patron, vous prenez le rythme que vous voulez. Mais quand on est dépendant des autres et sous les ordres et que nous avons des choses à observer, ben, il n'y a pas le choix. Il faut bien se lever le matin, n'est-ce pas? Hein, c'est dur en ce moment de se lever. Hein. Ouais, c'est dur, hein, c'est vrai. Surtout quand on est à moitié grippé. Et puis là, c'est encore beaucoup plus dur. Mais toujours est-il que une chose qui est certaine, c'est que ce que la Bible nous dit, c'est de garder un équilibre, voilà, pour vivre heureux, pour vivre finalement, dans la paix, parce que dans un certain repos. On y reviendra à la notion de repos que nous avons vue dans notre deuxième lecture. Parce que c'est vrai que là encore, on peut constater, on peut faire le diagnostic, hein, et je suis pas le seul à le faire, mais que des gens sont véritablement dans ce que nous avons appelé tout à l'heure le stress, dans une précipitation d'en faire, de faire, de faire, de faire. Alors, la Bible nous rappelle donc un temps pour toute chose sous le soleil. Oui, un temps pour toute chose, sous les cieux. Naturellement, il y a un temps pour naître. Alors, ça c'est une chose que nous ne pouvons pas en parler parce qu'il n'y a que ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui étaient avant nous naturellement. Hein, mais nous sommes là, naturellement. Maintenant, il y a quelque chose qui est beaucoup moins drôle, qui est beaucoup moins facile à accepter, c'est qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Et entre les deux, il y a la vie. Et c'est à nous de gérer, finalement, le capital vie qui nous a été donné. Certains le dilapident. Certains vont véritablement, ne pas prendre la valeur de ce qu'est la vie. Hein, alors, on n'a pas tous les mêmes chances. Enfin, je dis ça d'une manière très, 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 voilà, toute simple. Mais on n'a pas tous les mêmes chances. On ne part pas tous avec les mêmes avantages. Il y a des gens qui arrivent, ils sont malades. Il y a des gens qui naissent avec toutes sortes d'infirmités, il y a des gens qui sont dans un milieu qui, quelquefois, ne va pas les favoriser. Hein, il y en a qui naissent avec la petite cuillère en argent dans la bouche, c'est ce que l'on dit. Hein. Hein, voilà. Mais bientôt, ça va changer, on va tous naître avec une petite cuillère dans la bouche, avec les révolutions qui se passent un peu autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, toujours est-il qu'on prenne qui pourra. Mais toujours est-il que, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Et un temps pour se préparer à tout cela, naturellement. La préparation de la naissance, c'est pas nous. Hein. Peut-être la Bible nous recommande aussi de réfléchir. Hein. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On a une vie entière pour s'y préparer. Mais faut pas attendre le dernier moment. Et puis, voilà, il y a quelquefois des choses que nous ne maîtrisons pas, surtout notre départ. Ça, on ne peut pas dire, moi je vous affirme que je vivrai jusqu'à 130 ans. Je peux pas le dire, hein. Parce que c'est comme ça. Bon, toujours est-il. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Une fois que vous avez planté, l'arbre il a poussé, après il faut l'arracher parce qu'on fait quelque chose avec les arbres, hein, naturellement. Je vais passer très rapidement là-dessus. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, c'est terrible. Hein. Ça évoque naturellement, eh bien, peut-être la méchanceté du cœur de l'homme, naturellement. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir, c'est ce qui se passe dans nos villes. Hein, quelquefois. Vous avez vu l'ancien hôpital de Saint-Nazaire? Il est par terre et on en a un beau maintenant, formidable. Hein. Donc un temps pour mettre par terre et un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer. Ça, quelquefois, c'est pas nous qui le commandons. Hein. Parce que les circonstances de l'existence nous amènent à la tristesse, parfois à des chagrins qui sont terribles. Hein. Mais, comme il y a un temps pour tout, eh bien, quelquefois, il y a, non pas l'oubli, mais le temps qui passe. Et le temps, eh bien, n'est pas forcément contre nous. Et parfois, il peut nous consoler. Il peut nous amener une consolation, parce que la vie continue de toute façon, quelles que soient les épreuves. Alors, un temps pour rire, un temps pour véritablement, et ça fait du bien de rire. Vous trouvez pas? C'est vrai. Hein, ça apporte, bien un peu de soleil, un peu de chaleur. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Moi, je ne sais pas si après vous êtes monté, vous allez dans une salle pour danser. Hein, je ne sais pas. Mais moi, ça me regarde pas. Un temps pour lancer les pierres, mais pour relancer la deuxième, il faut aller la ramasser. Elle va pas venir toute seule. Comprenez? Hein? Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, parce qu'on va pas passer notre temps qu'à ça. Naturellement. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Ah, perdre son temps. Il y a des gens qui disent, mais je perds mon temps. Oui. Mais est-ce qu'on gagne du temps finalement? Ou c'est lui qui gagne sur nous? C'est toujours lui le vainqueur, hein? Parce que je voudrais vous rappeler, jusqu'à preuve du contraire, il y a combien d'heures dans une journée? Et on dit pas, on peut pas dire je gagne du temps, puisque de toute façon il y en a 24. Hein? Pour l'instant, on n'a pas encore inventé la 25e heure. Voilà, on l'a pas inventé. Voilà. Et puis une année, c'est quand même 365 jours, hein, un quart. Voilà. Alors on peut pas dire que je sais pas quand c'est votre anniversaire, mais vous allez voir, vous allez sentir que vous passez d'une année à une autre. Non, vous sentez pas. Non, c'est après quand vous commencez à avoir des rhumatismes et de l'arthrose. Là, vous allez sentir et vous allez dire, eh bien vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein? Alors, un temps naturellement pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. C'est vrai. Ah, un temps pour garder, un temps pour jeter. Il y en a des choses dans nos greniers. Hein. Et plus la maison est grande, plus finalement on s'encombre. Hein. Non, c'est pas vrai? Oui. Vous voulez pas me répondre parce que ça vous fait penser à quelque chose que vous avez à faire. Donc, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Naturellement. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Eh oui. Quelquefois, c'est utile de se taire. Ça vaut mieux. Vous savez, le vieux dicton qui dit, mais il ferait mieux de tourner sa langue, combien? 7 fois dans sa bouche, avant de parler? Hein? Voilà. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais vous dire ce soir, parce que c'est avoir des ennuis. Enfin, moi, bon, c'est mon temps de parler maintenant, hein. Mais toujours est-il que, voilà. Et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr. Vous savez, tout ça, ce sont les contrastes, hein, de la vie. C'est mis, naturellement, d'une manière assez sommaire. Mais toujours est-il, ça veut bien dire le temps que nous passons dans notre vie et l'utilité que nous donnons au temps que Dieu nous a donné, parce que c'est une valeur, le temps. Eh oui, il y en a des gens qui sont effrayés parce que le temps passe vite, et c'est vrai que le temps passe vite. Le temps nous emporte. Hein. On a toujours 20 ans dans notre cœur, non, c'est pas vrai, dans notre tête? Hein? Oui, mais bon, il y en a un qui suit pas. Comprenez, hein, ça suit pas toujours. Mais c'est vrai que, même arrivé à un certain âge, moi, quand j'avais 20 ans, je me disais, oh là là, à 45 ans, ce sont tous des vieux. Et... Puis bon, bah, maintenant, les 45 ans, ils sont déjà loin derrière moi. Alors, je me modère dans ma parole quand je vois des, et on a des anciens aussi, hein, on a des, qui sont encore plus vieux que nous. Alors, bon, on sait que, de toute façon, par la grâce de Dieu, on y arrivera aussi. Si Dieu le veut, naturellement. Donc, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Je vais m'arrêter là sur cette présentation qui est faite. Mais c'est important, le temps de vie. Quelquefois, nous voyons des situations qui sont profondément attristantes. Moi, quand je vois Par exemple, des jeunes gens et des jeunes filles qui, à l'âge de la jeunesse, sont en train de brûler la chandelle par les deux bouts. C'est vrai, hein. Bon, on est d'une époque où ça a été quand même une révolution, hein, les années 70, etc., etc. Et puis on en a encore naturellement les effets. Et aujourd'hui, eh bien, on vit dans cette période, on est toujours là. Et je me dis, mais c'était mon époque. Et je me dis, mais c'est vrai que quelque part, c'est dommage de gâcher sa vie pour des choses qui appartiennent aux conformistes parce qu'on ne veut pas être différent des autres. Alors, l'un fait ceci, on veut faire comme ça, parce que il nous semble que c'est ridicule d'être eh bien en dehors, finalement, du courant, du troupeau, enfin, du conformisme en général. Et quand on voit des vies gâchées, des vies qui sont entamées, eh bien, on se dit, c'est quand même dommage, parce que ça pourrait être autrement. Quand on est jeune, on est beau, hein, même si quelquefois le jeune homme ou la jeune fille ne se trouve pas beau, parce que bon, on a des complexes, toutes sortes de choses, mais... Une chose qui est certaine, c'est quand même beau la jeunesse, non ? Ils ont la force, ils ont la vigueur, ils ont des capacités que, voilà. Et si jeunesse savait, vieillesse pourrait, hein, c'est ce que l'on dit, hein. Mais à un moment donné, on commence à s'essouffler, hein. Voilà. Et après vient le temps des regrets, parce qu'on a été peut-être excessif, on a été entraîné à toutes sortes de choses, on a pensé vivre, on a pensé croquer la vie. Et puis, quand on s'aperçoit que tout cela, eh bien... c'est une sorte de vanité. On se dit, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça nous apporte quelquefois, comme on l'a dit, des larmes, et parfois des pleurs, des gros chagrins. Alors il y a des erreurs que l'on peut faire, des erreurs de jeunesse, que l'on peut faire et qui sont sans conséquences. Bon, qui sont quelquefois, eh bien là, pour nous-mêmes, les gens ne le savent pas. Mais on se dit, bon voilà, j'aurais pu faire autrement. Si j'avais continué mes études, si j'avais fait ceci et cela, peut-être que j'aurais une autre situation aujourd'hui, enfin... On est léger, hein, quand on est jeune, hein, c'est vrai. Mais il y a des choix que nous faisons dans notre vie, des choix d'existence, des choix, des options que nous avons à prendre, des choix sentimentaux, ça c'est important, ou peut-être à ce moment-là, ou des erreurs, parce que nous avons fait les choses précipitamment, qui nous resteront et qui laisseront des marques et des souffrances toute notre vie durant. Parce que ça, on ne pourra pas les enlever, parce que finalement les fêtes sont là, et nous souffrons toute notre existence. Ce n'est pas qu'on n'arrivera pas à faire avec, mais ça aurait pu être autrement. Et vient le temps peut-être des regrets, des déceptions, mais comme le temps nous emporte et que on ne changera rien au passé, on ne changera rien à notre histoire, parce que maintenant on peut toujours pleurer sur notre passé, on peut toujours se retourner et de dire « mais j'aurais pu faire autrement », ben oui, on aurait pu faire autrement, mais on a fait finalement le contraire. Alors c'est comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas nous attarder sur notre histoire et notre passé, parce qu'on ne peut pas pleurer toute notre vie. Hein, c'est comme ça, c'est tout. Maintenant, la Bible, Dieu nous dit que peut-être d'un faux départ, ou des erreurs, des fautes que nous avons commises, eh bien Dieu est près de nous, non pas pour nous accuser et nous juger, mais nous dire toujours et nous rappeler que le nouveau départ est toujours possible. Voilà. Il y a des gens qui se sont arrêtés de vivre. Il y a des gens qui se sont arrêtés à un événement de leur existence. Ils sont restés marqués profondément, peut-être même physiquement. Quelquefois, c'est aussi sur le plan intérieur. Et là, c'est beaucoup plus difficile à traiter, hein, parce que ça ne se voit pas, mais avec des marques indélébiles. Et à ce moment-là, eh bien, ils se sont arrêtés. C'est-à-dire que leur vie a été cassée, elle a été fauchée, on pourrait dire, dans une certaine mesure. Et pourtant, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour refaire, il y a un temps pour défaire, il y a un temps pour recommencer quelque chose. Nous avons un cantique que nous chantons assez souvent, c'est celui-ci, tu peux repartir à zéro. Ça, quand nous écoutons, c'est pas un chant du monde, hein, parce que souvent les hommes ne donnent pas une seconde chance. Hein. Tu t'es trompé, c'est bien fait pour toi, tu restes dans ta situation et c'est terminé. C'est pas la peine d'envisager autre chose, tu n'auras pas de seconde chance. Mais la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit que nous avons pu nous tromper. Nous avons pu nous tromper par ignorance. Nous avons pu nous tromper par entraînement. Nous avons pu nous tromper par séduction aussi, parce que nous avons été séduits. Peut-être par quelqu'un, je ne sais pas. Mais que nous pouvons être aussi nous avoir trompés parce que nous nous sommes trompés nous-mêmes. C'est-à-dire que sciemment, nous connaissions la mauvaise voie et nous l'avons empruntée en pensant que finalement on s'en tirerait toujours. Ça, c'est l'histoire de Samson, hein. Avec ses cordes, et qui se dit hop, c'est rien du tout, hein, moi je peux toujours faire ceci et faire cela, je m'en tirerai toujours. Ouais, mais le pauvre, jusqu'à un certain point, le pauvre Samson, et histoire de la Bible aussi, eh ben lui il restait vraiment ficelé, hein. Et quand ses ennemis lui sont tombés dessus, c'était terminé, hein. Il ne pouvait rien faire. Il n'était pas suffisamment fort pour sortir de l'épreuve dans laquelle il s'était lui-même pris. Alors, justement, dans ce petit cantique dont je vous parlais tout à l'heure, il nous dit tout simplement que tu peux repartir à zéro et que Dieu peut te donner toujours une autre chance. Et c'est ça, justement, le message de l'Évangile, quand nous l'entendons. Le message de l'Évangile, c'est ce que nous partageons ce soir. Vous n'êtes pas venu pour une messe, hein, c'est pas une messe ici, hein. Je tiens à le dire, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, c'est même pas religieux, hein. Mais par contre, on parle de la Bible. On parle de Jésus. Alors vous allez me dire, mais moi Jésus, c'est la religion. Non, Jésus, c'est pas la religion. Ah. Jésus a été même très critique par rapport à la religion de son temps. C'est-à-dire les pharisiens, les israélites. Il leur a donné des petits noms d'oiseaux, hein. Il leur a dit, vous êtes une bande d'hypocrites. Voilà, c'est comme ça, hein. Voilà. Et Jésus a été beaucoup plus favorable avec les gens qui avaient une vie tourmentée, avec les gens qui avaient véritablement des existences très légères. Il était beaucoup plus favorable pour ces gens-là que pour les gens religieux de son temps. Et nous nous apercevons que, quelque part, ben c'est ça le message. Et ce soir, vous n'êtes pas venu pour assister à une cérémonie religieuse, etc., etc. Nous faisons qu'une chose. Nous avons chanté quelques cantiques en introduction. Nous ouvrons la parole de Dieu, la Bible. La Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce qui nous concerne, c'est surtout le Nouveau Testament, où nous irons jeter quelques paroles, retirer quelques paroles, parce que c'est ça la vie. La vie, c'est pas des rites, la vie religieuse, ben, la vie spirituelle, c'est pas des rites, c'est pas des traditions, ce sont pas des dogmes, c'est pas tu feras ci, tu feras pas ça, etc., etc. C'est une vie réelle, c'est une vie qui nous met en pleine, en direct, en quelque sorte, en pleine connexion avec les réalités de notre monde, dans la réalité de notre propre vie, avec une invitation que Dieu, une sollicitation que Dieu nous propose, de dire si tu veux changer de vie, c'est possible, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour perdre et un temps pour gagner. Il y a un temps pour revenir vers Dieu ou découvrir Dieu. Et c'est Dieu qui nous y invite. Cette parole que nous avons en mémoire et que nous pouvons citer, c'est cette parole où Moïse dira de la part de Dieu, après avoir fait sortir le peuple du pays d'Égypte, il leur dira, mais si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, Dieu promet, je me laisserai trouver par toi. Ce soir, c'est un moment où le temps nous est donné de réfléchir, où Dieu nous interpelle et nous dit, eh bien écoute, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, mais moi je vais me laisser trouver, parce que Dieu ne demande que à le trouver, à le découvrir. Et c'est autre chose que finalement une démarche religieuse, où souvent les choses sont toujours finalement ramenées à la même chose, des rites, des traditions et toutes sortes de choses. Donc, il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour aimer, et un temps, eh bien là, pour son contraire. Alors la question qui est posée dans notre texte est la suivante, mais quel avantage celui qui travaille, retire-t-il de sa peine? On pourrait peut-être le décliner sous différentes formes. Mais quel avantage y a-t-il à vivre? Quel avantage y a-t-il à faire ceci ou à faire cela? Est-ce qu'il y a un plaisir d'abord? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a un sens ou une signification à ce que je fais, ce que je suis, d'où je viens et où je vais? Parce que pour certains, la vie, ils se disent, mais j'arrive pas à me situer, j'arrive pas à me placer, je suis malheureux, je suis malheureuse, j'ai pas trouvé véritablement pourquoi je suis là. Alors pour certains, ils se donnent de bonnes raisons, parce que bon, ils gagnent de l'argent, ils se disent, moi l'argent, c'est mon Dieu. Bon, ça c'est leur affaire, c'est leur philosophie. Bon, d'autres diront, bien voilà, je suis investi dans une vie professionnelle ou dans une œuvre qui me passionne et c'est la raison de ma vie. D'autres diront, eh bien moi, pour moi, avoir un couple, un mari, une femme, avoir des enfants, c'est noble, il n'y a pas de problème de ce côté-là, naturellement, et puis bien d'autres choses. Il y a bien des choses qui doivent nous motiver, parce qu'autrement, on meurt, hein. Ça c'est certain. Alors quel avantage? Quel avantage à ceci ou cela? Il y a des choix qui sont désavantageux, dont nous ne connaissons pas parfois les conséquences à l'avance, et nous allons les découvrir. Et puis il y a des choix qui sont véritablement, eh bien, un autre avantage pour notre bien, notre paix et notre bonheur. Alors, tout seul, c'est difficile à découvrir. Il y en a un qui se propose finalement de marcher avec nous, qui se propose de nous dire ce qui est bon pour nous. Quelqu'un qui est là pour, d'une façon ou d'une autre, je ne sais quelle manière, mais pour nous inspirer à faire des bons choix. Il y a des choix qui sont catastrophiques. Il y en a d'autres, on se dit, mais c'est bien, vraiment. Je pense que découvrir Dieu, écouter sa parole comme nous le faisons ce soir, faire confiance à ce qu'il nous dit, eh bien il y a, et nous pouvons le dire après des années où nous connaissons le Seigneur, non pas par un baptême d'enfant, mais par une rencontre réelle, à un moment ou un autre de notre existence, où nous pouvons dire, eh bien, aujourd'hui, malgré ma vie, tout ce que j'ai passé, il y avait du bien, il y avait du mal, il y avait des épreuves, il y avait des joies, il y avait toutes sortes de choses, mais j'ai associé Dieu à ma vie, et je peux dire aujourd'hui que je ne regrette rien. Vous savez, comme Édith Piaf, hein ? Non, non de rien, je ne regrette rien. C'est un cantique, ça, non ? Voilà. Hein, et c'est vrai que je pense que les chrétiens peuvent le dire parce qu'ils ont fait le bon choix. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des difficultés, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des problèmes, c'est pas pour ça que nous ne serons pas malades, que c'est qu'il y aura peut-être toutes sortes de choses qui surgiront. Mais à la différence, c'est que je ne suis plus seul. Voilà. Il y a un temps où je ne connaissais pas Dieu et un temps maintenant où j'ai associé Dieu à ma vie. Et j'ai bien vu la différence. Ouais. J'ai vu la différence. Quel avantage. Quelqu'un trouvera-t-il à travailler? Parce que premièrement, ça va lui rapporter un salaire. On travaille pas pour rien, on travaille pas pour la gloire, naturellement. Hein. Bon, ça c'est déjà une chose. Et puis l'homme qui n'est pas occupé, c'est un homme qui... L'oisiveté, c'est jamais très bon. Et je vais un peu plus loin. Le poète, parce qu'on peut dire ça pour Salomon, il dit « J'ai vu quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. » Oui, parce que c'est la vie. Il y a toutes sortes de choses. Notre vie n'est pas monotone. Elle ne doit pas être monotone. On ne doit pas pouvoir s'ennuyer. Il y a mille et une choses à faire. Alors après, c'est les choix que nous faisons dans les bonnes et rejeter les mauvaises. Bon. Il ajoute ceci. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors là, ça demande non seulement de lui faire confiance de ce qu'il nous dit, qu'il fait toutes choses belles en son temps. Il nous appelle à le croire. Mais ça demande aussi de notre part, là, bon, vous allez comprendre tout de suite, c'est quelque chose qui est propre à tout le monde, nous en avons et nous pouvons en vendre, c'est la patience. Ça va? Oui? Vous êtes patient? Vous vous êtes pas fâché après le conducteur qui était devant vous tout à l'heure en venant ici, non? Hein? Bon, il n'y a pas beaucoup de circulation, ça va? Mais la patience, parce que la foi, la vraie foi, elle s'accompagne de cette vertu, de cette grâce que l'on appelle la patience. Et il faut savoir attendre. Eh oui, quelquefois Dieu garde le silence, hein, lorsque nous sommes impatients, lorsque nous attendons quelque chose et que nous trépignons et que nous lui disons « Je te le demande, tu me l'as pas donné, alors donc je ne crois plus en toi. » C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Non, c'est de savoir garder notre âme, tenir notre âme en patience. Et si nous croyons réellement à ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a promis, c'est au fond de notre cœur, on ne le dit pas, c'est les autres ne le savent pas, mais au fond de notre cœur, nous avons comme un pressentiment qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se réaliser. Comment l'expliquer? On ne sait pas l'expliquer, mais on sait qu'à ce moment-là, eh bien, ce que Dieu nous a mis intérieurement, profondément, ça va se faire. Et il faut attendre, c'est le croire d'abord, et ensuite attendre que les choses... Il a fait toutes choses belles en son temps. Vous avez remarqué, il y a un adjectif. Toutes choses belles. Elles ne sont pas laides. Elles ne sont pas fausses. Elles ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas délétères. Elles ne sont pas toxiques. Elles sont belles. Elles sont bonnes. Voilà. Il a fait toutes choses beaux, belles en son temps. Et même, figurez-vous, que pour chacun d'entre nous, et ça, pour la plupart d'entre nous, nous le savons, peut-être qu'il y a des amis qui nous rejoignent que vous ne savez pas, je voudrais vous dire que Dieu a mis quelque chose dans votre cœur dont nous ne sommes pas, dont vous n'êtes pas conscients, c'est qu'il a mis une pensée. Ouais. C'est très intime. Ça peut être très subjectif, parce que ça nous concerne personnellement. Et finalement, s'il y avait une autre vie. S'il y avait une autre dimension. Par-delà le monde matériel que je connais, que je vois, que j'appréhende, que je sais, je suis dedans. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre dimension? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre vie? Certains diront, ben non. Regardez l'évidence. Un homme naît, il vit et il meurt. Et peut-être si nous reprenions un peu les choses dans le bon sens. Parce que c'est Jésus qui nous l'indique. Hein. Jésus dans le Nouveau Testament. Il nous est dit cette parole extraordinaire que celui qui croit en moi, nous dit Jésus, vous comprenez, celui qui croit en moi et qui vit en moi ne mourra jamais. Ah, ça, c'est quelque chose qui est terrible. Ah, vous dites ça, vous le criez dans la rue, vous allez voir, ils vont, vous allez vous retrouver à l'hôpital psychiatrique. Ah, mais ça, c'est sûr, ils vont vous prendre pour quelqu'un complètement de... Non, Jésus nous dit la vérité, je voudrais quand même le rappeler ce soir. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour mourir. Mais il y a un temps après la mort, immédiatement après la mort pour nous les chrétiens, pour renaître à une vie nouvelle. Qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, en apparence, c'est un corps. Il est vivant. Le corps serait mort s'il n'y avait pas l'âme. L'âme, c'est vous. L'âme, c'est votre personnalité. C'est votre identité, votre volonté, votre intelligence, votre conscience, votre tout ce qui fait votre personnalité. Un homme qui n'a pas la dimension de l'âme, c'est un homme qui est mort. D'ailleurs, de toute façon, quand les gens disparaissent, qu'est-ce que l'on fait d'un corps? On l'enterre parce qu'il devient, il retourne à la poussière, c'est tout. Hein. Ça, on le sait, hein, c'est vérifiable depuis que l'homme est sur la terre. Mais Dieu nous a donné une vie. Et quand nous arrivons sur cette terre, bébé, nous avons un corps, naturellement, qui va se développer, qui va devenir une stature, hein, c'est normal. Mais nous avons aussi une âme qui est là, un souffle de vie. Et quand l'homme, le chrétien je parle, le chrétien parce qu'il a une espérance, comme Jésus le dit, alors à ce moment-là, une fois que il rend son esprit à Dieu, c'est-à-dire que, voilà, lorsque nous expirons, eh bien la Bible nous le dit, mais d'une manière très précise, que à ce moment-là, nous déposons l'enveloppe charnelle, elle disparaît. Mais par contre, pour ceux qui ont la foi, celui qui croit et qui vit en moi ne mourra jamais, et qu'il a la résurrection, nous allons rentrer dans une dimension qui est une dimension à la fois morale mais avant tout spirituelle, parce que l'homme est avant tout un esprit, comme Dieu est esprit, et que toute cette réalité invisible de ce monde spirituel, c'est que nous avons été créés par un Dieu esprit, et nous retournons à ce Dieu qui est esprit. Et le corps n'est que seulement un passage, la vie n'est que seulement un passage. Utilisons bien notre vie pendant que nous sommes sur ce passage. Et l'utilisation optimale de notre vie, c'est de rencontrer Dieu. Jésus le dira dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17. Il dira, c'est une prière qu'il fait monter à son Père dans les cieux, à Dieu. Il dira, mais ce que je veux, ce que je désire, c'est que toi, c'est qu'ils te connaissent les hommes. Celui que tu as envoyé, qu'ils aient la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est une réalité. On parle du temps, mais on parle de vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais Dieu nous l'a donné par grâce, figurez-vous. C'est un cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons cette conviction à l'intérieur de nous-mêmes que lorsque nous partirons comme tous nos bien-aimés qui sont partis avant nous, mais nous n'allons pas seulement dans la tombe, le corps, oui, mais que nous allons dans une autre dimension. Jésus nous le dit avec des paroles extraordinaires, je vous ai préparé une place dans le ciel. Parce que ce que je vous dis, c'est la vérité. Autrement, je vous aurais pas dit, c'était la vérité. Je vous aurais pas dit. Alors, il a même mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Oui. Parce que l'homme n'est pas fait pour autre chose que l'éternité. Mais une éternité heureuse, où il n'y aura plus les choses semblables que nous connaissons aujourd'hui, la guerre, la maladie, la méchanceté, la haine, toutes sortes de choses auront disparu, parce que c'est un autre monde de l'autre côté. Un autre monde. Et il n'y a qu'un pas à faire pour l'homme. Il y a un temps à tout. Il y a un temps pour entendre la parole comme nous le faisons ce soir et y croire. Un temps pour écouter et croire dans notre cœur. Pas dans notre tête. Ça, c'est le cérébral, mais dans notre cœur. Et il y a un temps pour une démarche que nous pouvons faire, c'est accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Il y a un temps pour toute chose. Et ça peut se faire d'une manière très simple. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit, tout simplement. Je dis ce soir, je crois que Jésus-Christ est mon sauveur, je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur, je crois et je veux l'accepter dans ma vie, je veux qu'il change ma vie. Qu'est-ce qu'a été ma vie? C'était une faillite, ça a été quelquefois des choses qui ont été terribles, je ne veux plus vivre comme ça. Maintenant je peux et je sais qu'il y a une autre vie qui m'attend. Et on peut la commencer dès maintenant si nous voulons, un temps pour tout. Il a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur, bien que l'homme ne puisse pas saisir son œuvre. C'est ça la difficulté pour nous. Ouais, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Mais une chose qui est certaine, ce que nous ne savons pas aujourd'hui, il y a un temps pour pas savoir et un temps pour savoir. Et ce qui nous donne de connaître la volonté de Dieu, c'est ce que nous faisons. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que la prédication de l'évangile est annoncée à tous les hommes, ici, ailleurs, partout. Pour que les gens sachent ce qu'il en est. Et Dieu ne nous trompe pas. Voilà. Après, nous passons à des convictions, à des certitudes dans notre cœur. Regardez, lorsque vous parlez aux gens, vous leur dites, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Est-ce que vous croyez que vous allez au ciel lorsque vous allez partir de cette terre? Les gens nous disent, peut-être, j'espère. Eh bien, avec ça, on va pas très loin. C'est véritablement très précaire. Mais vous demandez la même chose à un chrétien authentique. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Vous lui dites, est-ce que vous croyez que vous allez aller au ciel? Il vous dira, mais moi, j'ai la certitude dans mon cœur. Alors après, on va vous traiter d'orgueilleux et tout ça, de dire, vous savez tout, etc. Non, c'est pas ça. C'est une conviction à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça ce qui est formidable. Nous savons et nous croyons et nous gardons ces choses dans notre vie. Parce que ce sont des réalités que Dieu a mis. Alors j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux, pour les hommes, qu'à se réjouir, à se donner du bien-être pendant leur vie. Mangeons et buvons. Et la suite. Car demain nous mourrons. Et je vous le dis avec le sourire, hein. C'est terrible, hein, ma façon de prêcher, hein. Non. Mangeons et buvons. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. Parce qu'ils se disent, il n'y a rien après la mort. Mais moi, je vous dis qu'il y a le contraire. Ouais, il y a une autre vie, dans une autre dimension, où le Seigneur nous attend de l'autre côté, où nous retrouverons tous ceux que nous avons aimés, qui sont sauvés et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ouais, il y a autre chose. Alors vous allez me dire, eh bien voilà, mais donnez-moi la preuve. C'est vrai que c'est difficile de vous donner la preuve. Est-ce que c'est la preuve? C'est véritablement, eh bien, quelque chose qui est une conviction à l'intérieur. Mais cette conviction, nous l'avons, vous pouvez l'avoir, si vous voulez. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Simplement. Alors, mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Parce que les gens ne sont pas conscients. Mais au lieu de faire des noms de Dieu quand il y a quelque chose qui va pas, excusez-moi, hein, c'est, parce que c'est ça, hein. Quelqu'un qui est en train de planter un clou et qui se met le marteau sur le doigt, il va pas dire au nom du diable, hein. C'est toujours Dieu qui prend. C'est toujours lui le coupable. Il est coupable de tout. La guerre qu'il y a actuellement, les gens ils disent, mais c'est Dieu qui crée la guerre. Et pourquoi Dieu crée la guerre? Et pourquoi ceci et cela? Mais, vous m'excuserez, mais Dieu n'y pourra rien dans cette affaire. C'est la méchanceté des hommes, c'est leur avidité, c'est leur égoïsme, c'est leur haine, les uns contre les autres. Alors laissons Dieu de côté. Ah oui. Parce que, quelque part, enfin, je veux pas faire la défense de Dieu parce qu'il est plus fort que eux. J'ai pas besoin de prendre sa défense. Il peut prendre sa défense tout seul. Hein. Ça, c'est vrai. Mais c'est terrible, une chose pareille. Hein. Mais par contre, les hommes sont inconscients que la vie qui est la leur, et même ceux qui sont les plus heureux sur la terre, normalement, chaque matin, quand ils se lèvent parce qu'ils ont à manger alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas à manger, qui ont peut-être la santé alors que d'autres se sont privés de la santé, la première chose que les hommes devraient faire, de dire « Merci Seigneur pour cette journée qui commence. » Wow, c'est dur ça. Et je veux passer quand même pour un sacré huluberlu, hein, quand même, en disant des choses pareilles. Vous savez que c'est le secret du bonheur, tout ça. Mais les gens ne le savent pas, les gens ne le veulent pas, parce qu'ils se disent « Moi, mon travail, moi, ma belle maison, mon avion, etc., etc., je l'ai gagné à la force de mon poignet. Regardez mes biceps. Bon. » Il manque un peu de volume. Hein. Mais toujours est-il que c'est de l'orgueil. Mais quand on considère que le souffle que nous avons, le pain que nous mangeons, la maison, la chaleur que nous avons quand il fait froid et toutes sortes de choses, que les vêtements que nous portons et que nous pouvons nous acheter, mais moi je ne pense pas que c'est simplement le fait du hasard dans un univers de hasard. Je crois que c'est avant tout parce que nous avons demandé à Dieu qu'il nous conduise et il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Et c'est bien de dire au Seigneur merci. Merci Seigneur. Ah, ça c'est important. Alors, si un homme mange, boit et jouit, c'est là un don de Dieu. Et laissez-moi vous dire maintenant, on va tourner quelques pages, vous parlez du don de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le don de Dieu? C'est une grâce. C'est un cadeau. Vous aimez recevoir des cadeaux? Oui. Bah, pas des cadeaux empoisonnés, hein. Enfin, on s'en aperçoit une fois qu'on a déballé. Après, on ne sait plus comment faire pour ça. Non, des cadeaux, un cadeau qui témoigne de l'affection de celui qui vous l'offre. C'est sincère, c'est pas hypocrite, hein. C'est pas une bombe à retardement qu'on vous met dans une boîte et qui explose, hein. C'est pas ça. Eh bien, le cadeau de Dieu, c'est Jésus. Ouais. C'est Jésus qui a été donné aux hommes, à l'humanité, pour que les hommes puissent croire dans ce cadeau de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, et être pardonnés de leurs péchés, être sauvés, parce que c'est lui qui a payé le prix de ce cadeau, en mourant pour chacun d'entre nous à la croix du calvaire. C'est ce que la Bible nous dit. Hein. On le croit, on le croit pas. Et si on le croit, ça devient une réalité pour nous. Je tourne quelques pages, et nous avions lu tout à l'heure. Eh bien, cette parole, le don de Dieu, c'est un don de Dieu. Tout est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. C'est pourquoi, nous l'avons lu et je le relis, selon l'Esprit Saint, vous savez que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vérité, c'est pas l'Esprit du mensonge, c'est pas l'Esprit de la tromperie, c'est l'Esprit de la vérité et de la lumière. Et il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, alors vous n'êtes pas obligé de me répondre et je ne vous demande pas de me répondre. Mais à partir du moment où les uns et les autres nous sommes confrontés avec la parole de Dieu qui nous invite au meilleur. Dieu n'est pas là pour, je le rappelle, Dieu n'est pas là pour nous juger, il n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous inviter à venir à lui. Et ainsi, certainement mettre notre vie en règle. Et Dieu n'est pas là pour nous reprocher notre passé ou nous punir. Ça, c'est des méthodes. Hein, religieuses et qui ont toujours existé. Mais si aujourd'hui nous entendons sa voix, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons deux possibilités. Soit nous endurcissons nos cœurs en disant « Ce que ce monsieur est en train de raconter, c'est des fadaises, c'est des histoires, il est complètement... je suis à peu près lucide. Hein. Non, mais je vais pas voir un psychiatre, ça va. Hein. » Je plaisante. Hein. Mais ces deux possibilités, soit... véritablement, eh bien, nous fermons notre cœur en disant, moi, je croirai jamais ça. Ce sont des bêtises, ce sont des histoires. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Hein. Ils sont libres de le penser. Mais nous avons soit la possibilité, au lieu de croire, d'être incrédule et de le rejeter, ou alors nous avons la possibilité d'être touché à l'intérieur de nous-mêmes et de dire, je veux en savoir davantage. Je voudrais en connaître davantage. Un feu qui s'allume dans mon cœur. Un feu qui commence à faire une petite lumière à l'intérieur. Vous savez que Jésus a dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. C'est dans l'évangile, hein, ça. Hein. Eh bien, le Seigneur ne va pas souffler dessus pour l'éteindre, il va souffler dessus pour le rallumer. Le peu que nous entendons est suffisant pour que nous soyons sauvés. De cette parole qui nous est donnée, n'endurcissez pas votre cœur. Par contre, craignons, tandis que la promesse est d'entrer dans son repos subsiste encore. Alors le mot repos, je lui donnerai cette signification, le mot repos, c'est le repos de l'âme, c'est le repos de la pensée, c'est le repos de la conscience, c'est le repos dans notre intelligence quelquefois qui est surchargée. Ça équivaut pour moi à une paix intérieure. Ça équivaut au salut et au pardon de Dieu, le repos. Parce que quand s'il y a quelque chose qui peut nous tourmenter, ce sont nos péchés, ce sont nos fautes. Que quelquefois, eh bien, nous avons du mal, finalement, eh bien, à pardonner aux autres, mais à nous pardonner nous-mêmes. Et ça, c'est le contraire du repos. C'est un tourment. C'est une obsession, quelquefois, pour certains. Ça devient même un véritable calvaire à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un feu qui brûle et on ne sait pas comment l'éteindre. Alors, c'est ça, le repos. C'est le salut de Dieu. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun ne paraisse être venu trop tard. Quelquefois, dans notre auditoire, hein, ce soir, je ne sais pas, mais... il y a des gens qui disent, bah oui, bah c'est bien ce qu'il raconte ce monsieur, hein, c'est l'évangile, ça c'est sûr. Mais, bah vous savez, à mon âge, c'est fini. Changerai pas de religion. Mais qui vous parle de changer de religion? Personne. Il n'est pas question de changer de religion, il est question de venir à Jésus et de croire en Jésus. C'est tout. C'est beaucoup plus simple, naturellement. Et sans mérite, sans argent, sans rien du tout, c'est gratuit, tout simplement. Alors faut pas croire que nous sommes venus, que nous arrivons trop tard, hein. Parce que vous savez, on avait eu des choses extraordinaires dans cette église, par exemple. où nous avons baptisé des gens. Moi, j'ai baptisé des gens. Je fais pas le baptême des enfants, hein, c'est pas mon style. Mais nous avons baptisé des. On baptise que des adultes ici, je le dis, hein, parce qu'il faut le savoir. Hein, des gens qui se sont décidés à un moment donné, en pleine conscience et connaissance de cause. Et ça nous est arrivé de baptiser des gens. Le dernier, il y a quelques années, 86 ans, c'est pas mal. Hein. Hein, il y a une belle vie devant soi quand on a 86 ans. Voilà, et puis d'autres, dans d'autres églises où je suis passé, et des vieillards. Mais il est jamais trop tard. Et ne dites pas qu'il est trop tard pour vous. Ne dites pas maintenant j'ai gâché ma vie, c'est fini, il n'y a rien d'autre. Mais non, moi je vous dis que tout peut recommencer, tout peut démarrer. Hein. Une vie nouvelle. Alors, on l'a dit, hein, que personne, qu'aucun de vous ne paraisse être revenu trop tard, car cette bonne nouvelle, c'est ce que nous entendons ce soir, hein. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Alors, il parle des Juifs, là, hein, qui, pendant des siècles et des siècles, attendaient le Messie. Quand le Messie est venu, ils l'ont crucifié. Vous comprenez, c'est Jésus, naturellement. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir foi, au lieu de faire confiance à ce qu'ils ont entendu, ils ont été incrédules, en se disant « Vous ne me ferez pas croire ça. Je ne céderai pas. » Je résisterai, parce que tout ça, eh bien, moi, j'y crois pas. Mais on est sauvé par la foi. Tout simplement, on n'est pas sauvé par autre chose. Alors, c'est pas la peine de rentrer dans d'autres considérations. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Je voudrais dire, les amis qui sont là, et qui sont là depuis longtemps, et qui suivent le Seigneur, non pas par le fait d'être dans une salle comme celle-ci, hein, au centre évangélique, mais par le fait qu'ils ont mis leur confiance en Jésus. Nous pouvons dire, et vous pouvez dire, que quelque part, eh bien, nous qui avons cru, eh bien, nous entrons dans le repos. Nous savons que nous sommes sauvés, que Dieu a pardonné nos péchés, qu'il a transformé et changé toute notre vie. Et puis, une dernière citation que je voudrais faire. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, il est dit ceci, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. J'entends, mais j'oublie. Non. De ne pas recevoir la grâce de Dieu, ce que j'ai entendu, je le garde. J'aurais peut-être du temps à cheminer pour peut-être m'expliquer à moi-même, finalement, de découvrir ce que nous dit la Bible, ce que nous disent, ce que nous promet Dieu à travers ses paroles, à travers toutes sortes de choses. Ça va pas venir du jour au lendemain. Voilà, la conversion, elle peut être immédiate, mais il y a du temps après. Hein. Mais il faut persévérer, il faut continuez à vouloir encore savoir. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Peut-être certains d'entre nous, vous commencez à prier pour la première fois. Ouais. Ou alors, pas de la prière dont nous avons appris lorsque nous étions sur les bancs d'un catéchisme. Pam, 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 et puis ça dure avec le... Vous comprenez? Enfin. Bon, ben c'est comme ça, hein. Mais c'était comme ça. On nous faisait réciter des choses qu'on ne comprenait pas, hein. Et des choses qui n'avaient pas beaucoup de sens, parce que bon, voilà, hein, qu'est-ce que ça signifie de réciter toujours pendant une heure, pendant deux heures, les mêmes paroles, et Dieu n'est pas sourd, hein. Bon, alors, donc, autant exaucé, Dieu t'a exaucé. Il y a un temps pour tout, mes amis, on l'a commencé par là, hein. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, il y a un temps pour écouter, et un temps pour recevoir ce que nous avons écouté. Et il y a un temps pour recevoir ce que nous avons écouté, et il y a un temps pour voir la réalité que Dieu exauce. Voilà. Que Dieu exauce et que sa parole, elle est vraie. Il y a un temps, au temps favorable, je t'ai exaucé. Moi, je crois que c'est jamais le hasard quand un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille ou un vieillard rentre dans cette salle et qu'il écoute l'évangile, ce soit cette salle ou n'importe qui, n'importe quel prédicateur, mais qu'il écoute l'évangile. Je crois que ce n'est jamais, jamais, au grand jamais, un hasard. On ne vient pas comme ça par hasard. Peut-être avez-vous reçu le témoignage. Peut-être avez-vous pianoté sur Internet et que vous avez vu l'adresse d'une église où on prêche Jésus-Christ. Peut-être, mais mille et une manières, peu importe. Peut-être que tout seul, dans votre maison, vous avez reçu peut-être dans votre cœur comme un appel de Dieu et vous dites « je voudrais en savoir davantage ». Non, écoutez, au temps favorable, Dieu dit « je t'ai exaucé ». Et si vous regardez la suite, au jour du salut, je t'ai secouru. Tu as crié, tu m'as fait part de ta souffrance, de ta détresse, de ta maladie, de ceci et cela, mais tu as prié avec foi. Et le temps venu, eh bien, je t'ai exaucé ou je t'exauce ce soir. Que le Seigneur nous bénisse, c'est important. N'endurcissons pas notre cœur, comme ceux qui l'ont fait par incrédulité. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, eh bien, Faites confiance au Seigneur. Faites-lui confiance. Ne faites pas confiance aux hommes. Ne faites pas confiance au centre évangélique. Vous auriez tort. Ne faites pas confiance au pasteur que je suis, parce que je ne suis qu'un homme. Mais faites confiance à Jésus-Christ. Vous ne le voyez pas, mais lui, il est au milieu de nous ce soir. Quand il dit que je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Moi, je suis conscient qu'il n'y a pas de hasard, que vous n'êtes pas là par hasard. Ce que vous entendez, c'est parce que les choses ont été préparées par Dieu à l'avance. Ça peut être surprenant et que le Seigneur est au milieu de nous. Faites-lui confiance. Il y a un temps pour tout et c'est le temps aujourd'hui qui nous est donné de croire. Il viendra un temps où vous verrez que tout cela, eh bien, c'est la vérité et que Jésus est Dieu, que Jésus est votre Sauveur et qu'il est votre Seigneur. Et vous verrez que c'est encore lui qui vous tend la main et qui vous appelle. Et quand on sait qui nous appelle, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », celui qui a dit « Je suis le chemin, empruntez-moi », celui qui a dit « Je suis la vérité, croyez-moi », et celui qui a dit « Je suis la vie, acceptez-moi, car nul ne vient au Père que par moi », dit Jésus. Alors croyez, on va courber nos fronts, on va prier quelques instants, et on va demander au Seigneur de nous visiter les uns et les autres. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole parce que elle est merveilleuse, ta parole. Nous croyons, Seigneur, que les hommes, à travers tous ces siècles, tous ces temps, Seigneur, depuis si longtemps, depuis toujours, nous pourrions dire, Dieu a parlé pour appeler les hommes, non pas pour les juger et les condamner, mais pour les inviter, Seigneur, à recevoir, eh bien, son pardon, à recevoir, en effet, Seigneur, sa grâce et son salut. Oui, nous voulons te remercier parce que le repos de Dieu est pour chacun et chacune. Nous voulons croire, Père éternel, dans un monde où il y a la guerre, où il y a la haine, où il y a la souffrance, la maladie, le feu, le sang. Nous voulons croire, Père éternel, que le message de Jésus, c'est un message qui nous dit qu'il y a un temps pour aimer, qu'il y a un temps pour naître, qu'il y a un temps pour vivre, qu'il y a un temps pour choisir, qu'il y a un temps pour s'approcher de Dieu. Il y a un temps, Seigneur, pour nous apporter eh bien, les certitudes dont nous avons besoin, que pour tous les hommes, Seigneur, même s'il y a ce passage de cette mort, nous croyons que pour les croyants, la mort, ce n'est pas un point d'interrogation épouvantable. La mort, ce n'est pas un point d'exclamation comme une surprise, mais la mort, c'est un point de suspension qui vient après la vie pour nous dire et nous affirmer qu'il y a une autre vie. Seigneur, merci de nous avoir donné le temps de la vie, de nous donner encore le temps de vivre et de bien choisir, parce que nous savons, Seigneur, ce qu'il en est aujourd'hui. Ta parole nous le dit, un temps pour écouter, un temps pour croire ce que nous avons entendu et un temps pour véritablement, Seigneur, donner notre vie. Comme toi, tu as donné la tienne à la croix du calvaire, tu n'es pas mort pour toi, tu es mort pour nous. Et nous croyons que tu es mort pour chacun, pour chacune. Alors nous le croyons de tout notre cœur. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.